France Culture.
Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Si Nadia Boulanger était une figure importante et reconnue du milieu artistique et musical du XXe siècle, à Paris notamment, elle n'a jamais pour autant eu la moindre prétention. Au contraire, elle fait preuve d'une admiration sans borne pour ses contemporains. Peu encline à dire du mal des autres, elle profite de ce 9e entretien au micro de Bruno Mont-Saint-Jean pour brosser d'admirables portraits de celles et ceux qu'elle a connus et admirés. La contralto anglaise Kathleen Ferrière, la mezzo-soprano mexicaine Aurelia Dominguez ou encore le pianiste roumain Dinu Lipati sont tous évoqués dans cet enregistrement de 1976. Elle a également eu la chance, dans ses cours, de voir éclore certains des plus grands compositeurs et chefs d'orchestre du XXe siècle. Elle raconte notamment les prouesses du jeune Igor Markevitch, arrivé dans sa classe à l'âge de 16 ans, avec un talent tel qu'il ne manque pas d'attiser la jalousie de certains de ses camarades. C'est dans une immersion parmi des instrumentistes légendaires et des compositeurs mythiques que nous accompagne donc Nadia Boulanger, dans ce 9e entretien au micro de Bruno Mont-Saint-Jean, diffusé pour la première fois le 10 août 1978.
Entretien avec Nadia Boulanger, une émission de Bruno Mont-Saint-Jean.
À celle qu'entre deux guerres, Paul Valéry m'adressait un jour avec ces simples mots, « Elle est la musique en personne. » Saint John Perse.
Moi, j'aime ouvrir la radio. Dernièrement, j'entends quelque chose de merveilleux. Et je me dis, ça vraiment, j'ignorais que ça puisse arriver. On jurait Kathleen Ferrière. Mais c'était Kathleen Ferrière. Mais je ne savais pas. Et alors je me suis dit, ben, c'est vrai, mon admiration aveugle, profonde, légitime, analysée, sentie. Je ne comprends pas, il n'y a pas quelqu'un d'autre qui chante comme elle. Mais c'était elle.
Vous l'avez connue ?
Une fois. Elle chantait des mélodies de Berkeley aux Champs-Élysées. Je l'avais invitée à dîner, mais elle, sa sœur et Madame Tillette, l'agent de concert. Mm-hmm. Et à la fin du dîner, quand nous passions à la porte de la salle à manger, je lui dis oh, « J'espère qu'un jour nous pourrons faire de la musique ensemble. » Et d'une voix étrange, elle a dit « Oh, la musique !» Moi, j'ai cru qu'elle aimait autant ne pas s'engager, faire de la musique avec moi, je n'ai plus dit un mot. Elle savait qu'elle chantait pour une des dernières fois. Mmh. Elle savait. 32 ans, c'est tout de même terrible.
Qu'est-ce qu'elle avait comme formation musicale?
Je ne sais pas exactement. Je crois qu'elle a été pendant longtemps employée au téléphone. Mais je ne sais pas si je commence à inventer ce que quelqu'un m'a dit. Je ne sais pas. Mais une personnalité est l'aider. Et l'aider.
Mais c'est étonnant quand même qu'il y ait des gens qui aient vraiment une spontanéité musicale.
Qui sont nés musiciens. Qui sont nés bouleversants. Vous avez eu affaire à Dominguez?
Aurélia?
Oui. Un matin, elle est venue répéter un air de Il ritorno d'Odessa. Vous savez, j'avais un groupe d'une vingtaine de musiciens. Nous nous sommes tous regardés en rougissant. Nous avions tous les larmes dans les yeux. Ça me fait la peine de m'en aller en n'ayant jamais fait ce requiem de Forêt que j'ai conduit, je ne sais pas, 53 fois. Avec la Boston Symphony, avec la New York Symphony, enfin dans des circonstances exceptionnelles. Mm-hmm. Et nulle part un disque n'a été fait.
Sauf à Paris.
Oui, mais celui à Paris contient des choses très bien. Le Pie Jesu, j'aurais donné un trésor pour sauver. Mais le reste, il y avait une face. Je leur ai dit, genre même, j'ai jamais, je ne dirai oui. Et je n'ai jamais dit oui.
Même pour sauver le Pie Jesu?
Ah non, même pas.
Et pourquoi est-ce que vous ne l'avez pas refait après?
Ah, parce qu'on l'a refait trois fois. Vous et dire... trois fois, pour une raison ou une autre, j'ai dit non. Ça, j'avais fait un contrat très sérieux à cet égard. J'étais la seule personne à dire oui ou non. Pas de compromis, on vote, qui est-ce qui a raison? La seule qui décide, et j'ai dit non. J'aurais dit, refaites cette face, mais vous verrez, ça va être très bien. J'ai dit, vous savez, je crois, avec ce que j'ai entendu aujourd'hui, que ça ne sera pas très bien. Mais comme vous voudrez, moi ça m'est égal. Les questions de réalisation extérieure me font peu d'effet. Il s'agit d'une toute autre matière pour moi. Mais il faut sortir le Pie Jesu, qui est particulièrement beau.
Thank you.
Patti était un ange sur terre. Vous ne pouvez pas imaginer ce qu'était Guy Patti. Noble, profond, gai, même jusqu'à la mort. Il savait très bien que les dés étaient là. Le pianiste, j'ai pas besoin de vous dire, c'est un des plus grands pianistes qui ait jamais existé. Le musicien, le type même du musicien complet. Mais l'homme, je suis arrivé une fois à Genève pour venir le voir parce que je savais que le temps était mesuré. Il ne sortait plus déjà. Il m'a dit, nous allons chez le docteur. Ah, je dis, pourquoi ? Parce que vous aviez l'air fatigué et que j'ai pris rendez-vous avec lui pour qu'on arrange quelque chose. Je suis arrivé, il avait tout manigancé avec le docteur qui m'a dit, il faut que vous alliez passer un mois dans telle maison de santé, la chambre est retenue. Il attachait une importance à ses jours de repos pour moi, alors qu'il était, lui, mourant, qu'il avait une maladie de laquelle, à ce moment-là, personne n'avait encore guéri, mais il pensait aux autres. Et je vous en parle parce que il y a quelque chose de si émouvant dans cet être qui adorait la vie, qui a donné ses admirables concerts, qui a fait ses enregistrements invraisemblablement beaux, alors qu'on était obligé de faire une transfusion du sang. Ansermé m'a dit, quand il lui a dirigé un concerto, Schumann, il a pleuré pendant tout le concert parce qu'il ne pouvait pas, il avait devant ses yeux quelqu'un qui donnait l'impression d'un mourant et qui jouait d'une manière sublime. Je crois que nous devons oublier pour nous souvenir du rayonnement invraisemblable qu'il exerçait sur son piano, sur ses auditeurs, sur lui-même. Je crois qu'il faut penser à Guy Patti vivant, Guy Patti immense artiste, et pas Guy Patti luttant contre la maladie. J'ai le même problème avec la mémoire de ma sœur, pour les gens jeunes qui s'intéressent aujourd'hui au souvenir de Guy Patti, au souvenir de ma sœur, ils ne savent pas. Ils entendent des disques, ils entendent parler d'une œuvre, et c'est la vie qui triomphe.
Lorsqu'il est venu travailler avec vous, il était déjà un pianiste établi ou un musicien établi ?
Oh, il était un admirable pianiste, élève de cette merveilleuse Florica Musicesco, qui était professeur au conservatoire de Bucarest, ouais. Un maître d'une rigueur effrayante, sans pitié. Je ne l'ai jamais entendu jouer, mais je sais qu'elle avait joué admirablement.
C'est elle qui vous avait envoyé Guy Patti ?
Non, c'est Cortot. Mais peut-être qu'à ce moment-là, Enesco m'a écrit aussi. Ça, je ne vous garantis pas. Moi, je sais que j'ai trouvé à un moment donné Guy Patti, et quand j'ai vu ce don, cette musicalité frémissante et raisonnable et maîtresse d'elle-même, j'ai été conquise, profondément bouleversée. Un grand personnage.
Vous avez enregistré avec Guy Patti ?
Oui, nous avons fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de musique. Thank you. Cortot m'a envoyé. Il est parti, comme c'est Cortot qui m'a envoyé Markevitch.
Ah bon?
Oui. Et il me souvient du premier jour où Markevitch est entré dans ma classe, 16 ans, 15 ans à peu près, enfin. Et je dis à mes élèves de la classe de contrepoint, après avoir joué un contrepoint à 4 parties, pouvez-vous le jouer? Oh, mais il n'en est pas question, on l'avait entendu une seule fois. Et le petit Markevitch se lève, et avec son extrême courtoisie, m'a dit, si vous permettiez, mademoiselle, j'aimerais essayer. Mais je dis, c'est pas possible, tu n'as jamais fait de contrepoint. Et nous discutons au moins pendant 5 minutes sur l'impossibilité. Je me dis comme ça, s'il se met au piano, les autres élèves ont vu que je ne crois pas que ça soit possible. Et à la stupéfaction de tout le monde, peut-être à la sienne même, il a joué tout le contrepoint. Eh bien, à la fin de la classe, il y avait la moitié des élèves qui étaient prêts avec dévotion à le servir, et les autres qui ne lui ont jamais pardonné. Trop supérieur, trop fin, trop cultivé. Markevitch était encore presque un enfant, et il avait la certitude. Ils ont posé une question, il savait la réponse. Il la disait. Et comme il avait toujours la réponse avant tout le monde, les autres étaient parfois un peu agacés. Mais ceux qui ont compris lui sont restés dévoués à travers toute la vie.
Ce qui est très curieux avec Markevitch, c'est que je crois qu'il a d'abord été connu comme compositeur.
Oui, oui. Et ça, alors pourquoi il a cessé de composer ou de montrer ce qu'il composait, je l'ignore. Je ne garde pas un secret. Je suis devant un secret, mais dont je ne connais pas l'étendue, dont je ne connais pas le caractère.
J'ai entendu parler du rêve d'Icare.
Oh oui, mais ça, c'est déjà après. Il a commencé avec son concerto. Il a beaucoup d'œuvres. Moi, j'ai tout ça ici. Et c'est d'une telle originalité, d'une telle force. C'est d'un grand compositeur. Quand on a repris Icare, malgré lui, il a trouvé que c'était une partition importante. Mais je crois qu'il n'a pas pu s'empêcher de trouver. Mais il ne provoque rien puisqu'il a été chef d'orchestre de plusieurs sociétés et qu'il a peut-être joué une fois une de ses œuvres. Enfin, il n'a pas joué. Je ne sais honnêtement pas ce qui s'est passé. C'est pour moi une grande tragédie parce qu'une musique d'une telle personnalité, d'une telle valeur, d'une telle originalité. Quand on pense quand tout ça a été écrit et qu'est-ce que ça représente comme musique, il n'y a pas un disque des œuvres de Markevitch. Mais ça me paraît totalement invraisemblable. Il y a des êtres qui sont entourés de l'ignorance des gens qui les entourent alors qu'ils ont tout à gagner à profiter de cette présence. Ils ont tout à gagner à connaître mieux Markevitch. On le connaît, on lui fait des triomphes comme chef d'orchestre, partout où il passe.
Je pense d'ailleurs que les décisions des uns ou des autres, de vous, entre autres d'ailleurs, de cesser la composition, sont des décisions qui sont extrêmement difficiles à expliquer.
Et qui ne regardent personne.
La décision de Markevitch est du même ordre que votre propre décision.
Oh, pas du tout. Parce que moi, c'est la conscience que ma musique était inutile. Rien. C'est le vide. Jamais Markevitch peut être d'accord avec lui-même, pas d'accord avec lui-même, mais il ne peut pas, quelle que soit l'aberration qui est conduite, croire que sa musique est insignifiante. Pourquoi il ne l'a plus cultivée, je ne sais pas. Et vous savez qu'il est en train d'écrire un ouvrage monumental sur les symphonies de Beethoven. Alors, je ne connais pas encore le livre, mais je connais l'esprit du travail, l'incommensurable dimension du travail que ça représente, parce qu'il a rétabli toutes les fautes, il y en avait beaucoup, il a rétabli les coups d'archet des différents grands chefs d'orchestre. Enfin, c'est un livre qui est un apport historique immense.
je trouve ça très curieux de voir en tout cas toute une série de musiciens à la fois interprètes et compositeurs et faire toujours pencher la balance dans un sens ou dans un autre. Avec Enescu, c'est quand même quelque chose de très frappant. Le fait d'être reconnu comme violoniste et d'être frustré dans son existence de compositeur.
Oui, oui, il ne tenait qu'à sa composition, réellement. C'est un grand musicien.
Oui, mais comment est-ce qu'on peut faire le partage entre le grand musicien interprète et le grand musicien créateur?
Ça, alors, vous savez, je vous laisse le soin. Je crois que personne n'a jamais approché Enescu sans le vénérer. Parce qu'Enescu était un grand personnage. Un grand, grand personnage. Quand vous voyez un concert où jouait Menuhin et Enescu, il y avait Enescu ébloui par Menuhin, et Menuhin soucieux avant tout de laisser passer Enescu devant lui, montrant sur scène même sa vénération, sa dévotion. C'est très émouvant.
Thank you. Parmi les gens de cette époque de l'entre-deux-guerres, il y avait aussi des interprètes comme Isaïe, comme Casals, Pugno.
Non, non, mais alors ça c'est autre chose. Vous prenez une période qui a été, pour la musique de chambre, une période extraordinaire. Vous aviez le Quatuor Capé qui a rayonné à ce moment-là d'une manière merveilleuse. Puis il y avait chacun des deux ayant une grande carrière, Pugno et Isaïe, ce grandissime, énorme violoniste. Alors moi, j'ai vécu au milieu de ces répétitions et un jour où je rentrais, et Isaïe était en train de travailler à petite journée la sonate de Franck, et je lui ai dit, j'étais au moment où j'aurais osé déchiffrer n'importe quoi dans n'importe qui, comme une pauvre idiote que j'étais. Et je dis, mais pourquoi travailler tellement cette sonate? Et il est devenu très sérieux, il m'a dit, est-ce que vous vous rendez compte que nous la jouons plus de 100 fois par an? Si on ne travaillait pas, ça deviendrait intolérable.
Et il la jouait avec Pugno?
Bah, pratiquement toujours. Alors... Il faisait deux interprètes faits pour aller ensemble, ces deux géants. Bouzoni était génial. Il jouait du piano d'une manière extraordinaire, extraordinaire.
Vous l'avez entendu jouer ?
Oh, souvent, souvent. Et à un moment donné, il a joué d'une manière qui était révélatrice du plus profond d'une œuvre. La légende de Saint François d'Assise prêchant aux oiseaux. Et j'écoute ça et je me dis, bon... En quoi est-ce si extraordinaire? Il a fallu l'entendre trois fois pour arriver à discerner que tous les tris qui sont dans cette œuvre, il avait réussi ce tour de force incroyable de donner le même nombre de notes. Mais on était incapable de s'en rendre compte. On percevait seulement une unité, un ciel de Dali. Eh bien, un ciel de Dali, un ciel bleu comme ça, bah, c'est un ciel de Dali. Et il peut faire toutes les folies qu'il veut autour, il y aura le ciel de Dali. Mais d'autre part, il avait le démon de l'invention. Et est-ce qu'il était aussi grand dans son invention que dans son génie lui-même? Je me laisse la question ouverte. Il n'était pas plus grand que Beethoven. Il n'était pas plus grand que Mozart, et il était parmi les plus grands. Il jouait d'une manière unique, avec le souci d'inventer, même alors qu'il jouait. Et je crois que le génie était plus grand s'il n'eût pas essayé de faire dire à Mozart ce qu'il impliquait lui, Busoni, ce qu'il voyait, ce qu'il ajoutait de son cru. Il faut que l'interprète soit extraordinaire pour rendre tout son être, toute son identité à l'œuvre. Mais en essayant de se plonger dans l'œuvre, au lieu de ramener l'œuvre à lui, ce qu'il fait fatalement, probablement, dans une certaine mesure. Mais je crois qu'il doit ne pensez qu'à l'œuvre.
Il se trouve que dans le résultat, on peut toujours déterminer la signature d'une interprétation.
Honnêtement, je dois vous dire que c'est épouvantable, mais j'oublie. Je n'entends que l'œuvre. Un jour, Cortot me dit « Est-ce que vous savez que vous êtes la personne qui m'avait dit la chose qui m'a le plus touchée ?» Oh, sinon, je voudrais bien le savoir, parce que ça me ferait tellement de plaisir. Je venais de jouer les préludes de Chopin et vous êtes venu... Ah, je me souviens. Il avait fini les préludes de Chopin et dans la salle, tout le monde me dit « Comment trouvez-vous qu'il a joué ?»« Comment trouvez-vous qu'il a joué ?» Je dis, je ne sais pas, je n'ai jamais trouvé les préludes si beaux. Et je suis arrivé à lui, je lui ai dit « Écoutez, tout le monde me demande comment vous avez joué ?» Puis je n'ai aucune idée. Je sais que je n'ai jamais trouvé les préludes aussi beaux. Eh bien, lui, 20 ans après, quand il m'a dit ça, c'est ça qui l'avait touché. C'est que j'ai senti qu'il avait mis toute sa lumière sur le prélude et pas les préludes sur lui. Alors que lui joue un rôle, il joue un très grand rôle, parce que s'il voulait mettre toute la lumière et qu'il ne fût personne, ça n'irait pas.
À votre avis, un interprète qui a joué des centaines de fois la même œuvre et qui l'a promenée de concert en concert, il peut éprouver un certain sentiment de lassitude.
Oui, mais alors écoutez, prenez le cas bien plus tragique. C'est le prêtre qui aurait cessé de croire. Mmh. Alors, quel est son devoir ? Moi, j'essaie de m'imaginer, mais je crois que je m'efforcerai de garder ce que mes fonctions extérieures apportent aux autres. Je joue la sonate à Kreutzer, j'ai perdu ma foi entière, mais je sais comment il faut la jouer. Et tant que je vois qu'il y a une réaction du public, je continue à la jouer, ayant pourtant perdu ma foi. Celui qui a une fonction et qui dit « je ne crois plus à cette fonction », enlève à cette fonction son pouvoir, sa réalité. Je ne crois plus à l'enseignement, alors je lâche l'enseignement. Et si c'est une pure réaction personnelle, je trouve que c'est amener le doute dans des gens trop faibles pour se défendre, et j'essaierai de lutter contre ça.
On peut se poser la question de savoir à ce moment-là si d'ailleurs l'interprétation de la Sainte Kreutzer va être aussi bonne ou si le prêtre va donner d'aussi bons conseils lorsqu'il avait la foi que lorsqu'il ne l'a plus.
S'il est un très grand bonhomme, encore meilleur.
Si on transpose ça dans le domaine de l'art, ça voudrait dire que l'art est d'abord l'art du mensonge.
Moi, je dirais l'art de la réalité. L'œuvre est plus forte que nous devant elle. Quand l'interprétation est sublime, c'est le moment où j'oublie le compositeur, j'oublie l'interprète, je m'oublie moi-même, j'oublie tout, excepté ce chef-d'œuvre. Alors je crois que l'œuvre d'arrêt et qu'elle domine l'ensemble de tous les interprètes.
L'interprète n'est pas seulement celui qui la joue, mais celui qui la contemple, probablement.
Moi, je crois qu'il oublie sa personnalité, qu'elle joue. Malgré tout, elle joue. Mais pas avec la conscience qu'elle joue. Sans ça, il transpose. Alors, je me sers de l'œuvre d'art pour croire que je suis Tristan et Isolde. Ben, moi, je ne sais pas, si j'ai envie d'être Tristan et Isolde, il vaut mieux que j'ai une brave petite aventure qui ne sera probablement pas aussi sensationnelle que Tristan et Isolde. Mais moi, j'ai envie d'une aventure, ben, j'ai une aventure. Mais je ne me sers pas de Tristan et Isolde pour croire que je joue le grand amour et puis que je vais mourir de cet amour. Il y a Tristan et Isolde et puis moi, je suis rien. Je suis celui qui reçoit et qui comprend ou qui ne comprend pas.
Thank you.
C'était la 9e partie des entretiens avec Nadia Boulanger au micro de Bruno Mont-Saint-Jean, diffusée pour la première fois le 10 août 1978.